J'espère que ce soir, pour cette fin d'après-midi, vous allez pouvoir remplir le programme, la cause de notre joie. Nous allons parler de la cause de notre joie. La première et fondamentale cause de notre joie qui est la très sainte Vierge Marie. Et le sujet de ce soir précis que Monsieur l'abbé Troidec souhaite que je développe plus spécialement ce soir, c'est le titre exact, donc, la dévotion à la très sainte Vierge Marie et les dévotions à Marie, bien sûr. Spécialement les fausses dévotions ou les dévotions déviées, telles que peut les traiter, donc, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son petit traité, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Un petit avis aussi préliminaire, pendant que j'y pense. Je vois vos résolutions. Pensez bien que... Comment on appelle ça dans nos retraites ? Attention, jeudi, à partir de dernier jour, avant-dernier jour, ou dernier jour et puis dernière demi-journée, le démon de la valise. La retraite est finie. Voyez-vous, il ne faudrait jamais dire une retraite est finie. Quand vous allez sortir de la retraite, vous commencez la retraite. La vraie retraite. Pas la retraite de Russie, hein. La vraie retraite, la retraite du quotidien, la vie pour l'amour de Dieu, là où vous êtes, pour pousser là où vous êtes. Et également, pensez bien que, bon, l'exercice propre de la retraite, garder le silence jusqu'au bout. C'est un vrai miracle de faire garder le silence à des femmes pendant 5 jours. Comme c'est un miracle de les faire vivre ensemble sous une règle religieuse. Un mini-miracle. Alors, faites continuer le miracle jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Parce que dans ce silence, dans cet effort de retraite, mon Dieu a encore des choses à vous dire. De même qu'on raconte dans les exercices de Saint-Ignace que certains ratent leur retraite dès l'entrée. C'était amusant dans des marchands droits, là. Certains arrivent à la retraite... Alors celle qui aime beaucoup la propreté, c'est jamais tout nettoyé, s'il y a des toiles d'araignée, ça y est, la retraite est fichue. Elles ne sont pas dans le cadre. Alors, de même, au sens inverse, vous pouvez recueillir des grâces de la retraite jusqu'au dernier moment et peut-être même pendant votre voyage de retour. Voilà. Alors, soyez attentifs aux inspirations divines, à ce que le bon Dieu demande, continuez l'effort légitime. Va dire, oui, on a été... Alors demain, ça va être très beau d'entendre vos... Au petit déjeuner, pouf ! Non, non, au début, c'est pas comme ça. C'est pas... Elles savent plus ce qu'elles ont à dire. Alors, rituellement, il y a un léger temps de silence. Puis après... Bon, en tout cas, restez, comme on dit, mobilisés, motivés jusqu'au bout. Voilà. Recueillez des retraites. Pensez que cette retraite, c'est pour bénir toute votre année. Toute votre année, tous les mois qui vont venir vont être bénis parce que vous avez fait une bonne retraite. Bon père, elle était bonne la retraite annuelle. On vous dira ça l'année prochaine, au résultat des résolutions. Je peux pas vous dire, je peux peut-être vous dire celle de l'année dernière. Il n'y a pas eu grand-chose, hein. Ça n'a pas beaucoup bougé. Je vous dirai l'année prochaine si elle a été bonne. Bon, même si les exercices vous ont fait du bien, si vous avez été touché par certaines choses, bon... Bon, pensez bien ça. Bien, voilà les préliminaires. Vraie dévotion à Notre-Dame. Première chose à faire, nous souvenir, c'est qu'essentiellement, le mystère de Marie est un mystère surnaturel. Il n'y a rien de plus grand, dit Saint Bonaventure, que le mystère et la dignité d'une mère de Dieu. Après la Trinité, après l'union hypostatique, le mystère de la sainte humanité de notre Seigneur, Avec et à côté du mystère du Saint-Sacrement, il y a l'éminente dignité de la maternité divine. Qu'une créature humaine ait pu être choisie par la Très Sainte Trinité pour être la digne mère de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité de telle façon que elle puisse dire avec le principe absolument premier de la Trinité, le Père, elle dit en même temps avec le Père qui le dit éternellement, mon Fils. Avec la précision que pourrait donner la théologie, on pourrait dire, de même façon que le Père dit de toute éternité, tu m'es mon Fils, je t'ai engendré de toute éternité, vous avez chanté ça sans doute à Vêpres du dimanche, la Sainte Vierge dit, mon Fils, voilà, je vous ai engendré par une grâce et un mystère ineffable de la Très Sainte Trinité qui a fécondé mon corps virginal. Vous êtes mon Fils. La Très Sainte Vierge Marie qui dit « Mon Fils » à cette personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ est l'écho sur la terre, l'écho dans le temps de cette parole unique que dit le Père dans la Très Sainte Trinité. « Tu es mon Fils ». Connaissez cette belle parole de Saint Jean de la Croix. Le bon Dieu, le Père, ne dit qu'une seule parole, c'est son Fils, et il l'a dit dans un grand silence. Et pour que l'âme puisse entendre cette parole, il faut elle-même qu'elle se mette dans un grand silence. Bien, si nous voulons un peu comprendre, un peu mieux comprendre ce que c'est qu'une digne mère de Dieu, ou qu'un Jésus-Christ, fils de Dieu, qui est fils de Marie, il faut que nous soyons dans un grand silence, le silence de la foi d'abord, de la foi. Il n'y a que la foi qui peut nous dire ça. C'est très amusant quand nous rencontrons des personnes qui ne sont pas pratiquants, parfois à peine chrétiens. Il y a un peu toutes les réactions quand on parle de la Très Sainte Vierge. Mais quand même, assez régulièrement, il y a une petite nuance de mépris. Oui, la Vierge Marie. Notre-Dame de Lourdes. Quelle ignorance! Quelle faiblesse! C'est un mystère tout divin, Marie, tout divin. Et il faut pour ça le silence de la foi. Voilà. Je crois en Marie, digne mère du Fils de Dieu qu'est Jésus-Christ. Voilà. C'est implicite dans le mystère de l'incarnation. La foi à l'incarnation implique que Jésus-Christ est le Fils de pas n'importe quelle mère, comme ça, qui est, oui, non, de cette mère-ci. Et qui en plus est vierge, virginale, mère de Dieu. Bon Dieu aime les contrastes. Et une mère en plus, le mystère franciscain, évidemment, chez nous, qui nous touche le plus, surtout en ces derniers temps, avec le Père Kolb. Une mère absolument, pour qu'elle soit digne mère de Dieu, il était convenable qu'elle soit purifiée de toute trace du péché originel. Et ça, ce n'est que l'expression négative du mystère. Le fait d'être préservé de la tâche du péché originel et des conséquences du péché originel fait que la Très Sainte Vierge Marie naît toute pure dans la grâce. C'est-à-dire que dans ses facultés, dans ses puissances, son intelligence, sa volonté, dans l'essence de son âme, la grâce ne trouve aucun obstacle. Nous naissons, Monseigneur l'a suffisamment répété, mais à plusieurs conférences durant cette retraite, avec des blessures du péché originel. La Sainte Vierge n'a pas ces blessures, n'a pas ces freins donnés à la charité et à la grâce. L'exposé de l'âme de la Vierge, ce serait ce qu'on répète dans l'Ave Maria, elle est pleine de grâce, ça veut dire pleine de la capacité d'aimer Dieu et tout ce qu'aime Dieu. Pleine de l'espérance divine, théologale. Pleine de la foi. Son intelligence est complètement braquée sur Dieu. Ses vertus infuses, prudence, justice, tempérance, force, sont des pures capacités, autant qu'il est possible dans la créature, de recevoir tous les agirs divins. Les dons du Saint-Esprit dans l'âme de la très sainte Vierge Marie, des capacités à être mues parfaitement par le bon Dieu, en tout, toujours et partout. La béatitude d'un cœur pur et immaculé. L'ouverture au développement plénier des sept dons du Saint-Esprit, qui doit aboutir dans quoi ? Dans les béatitudes, nous dit saint Thomas, les béatitudes et les fruits du Saint-Esprit. Tout cela pour être une digne mère de Dieu. Et pour que cette capacité de charité, donc, elle puisse aimer, éduquer, former un digne fils de Dieu jusque dans son corps. On dit que notre Seigneur ressemblait d'une façon exceptionnelle physiquement à sa mère. Il n'y avait pas de cellules masculines. Il n'y a que les cellules de Marie et le Saint-Esprit qui fécondent. Donc Jésus était le parfait, même physiquement. Il y a un très beau petit ouvrage du Père Spic, Ceslas Spic, là-dessus, magnifique. La ressemblance de Jésus de Marie, dans son corps, dans son psychisme, en plus l'éducation, ce qu'a dû donner. Que de vertus en Jésus qui nous viennent, après bien sûr ce qu'a pu être la divinité, ce qu'elle a pu mettre dans la sainte humanité de Jésus, le conditionnement humain, physique, éducatif, vient de Marie. Si Jésus-Christ a pu dire « je suis doux et humble de cœur », eh bien je peux vous dire qu'il y a une bonne part, une sacrée part, que nous ne pouvons mesurer que dans la lumière de Dieu, de douceur et d'humilité qui lui est venue par sa mère. Le cardinal de Bérulle disait « parler de Jésus ou de Marie, c'est la même chose ». Ça allait loin. C'est la même chose. Jésus-Marie, c'est la même chose. C'est presque par la charité, j'entends. Ce n'est pas une fusion panthéiste, attention. C'est presque une seule et même personne. Jésus-Marie, presque une seule et même personne. Donc, vous voyez, une idée, c'est dans cette capacité. Capacité d'amour pour son fils et capacité à aimer son fils qui est chef du corps mystique. On fait une petite allusion hier. Mais qui est aussi le premier-né de tous les élus. Et donc, la très sainte Vierge Marie est aussi mère du Christ total. Mère de chacune de nos âmes. Dès le premier instant, notre baptême. C'est la mère de notre vie surnaturelle. Nous avons deux mères, et c'est très bon, on voit ça dans la vie de certains saints. Quand est mort le Padre Pio, devant son lit de mort, il dit « je vois deux mères ». Ça va pas, mon Padre ? Si, si, je vois deux mères. Il y avait le portrait de sa mère, il y avait la Sainte Vierge. Les deux étaient là au pied du lit. Deux mères. Et nous sommes bien plus nés dans notre vie surnaturelle que nous ne sommes nés de nos mères. Car nos mères nous ont donné que quoi ? Et déjà beaucoup, notre corps, notre psychisme, notre vie, ensuite l'éducation. Au jour de notre baptême, c'est une vérité qui touchait beaucoup le Père Jacquier, au jour de notre baptême, nous avons été plongés dans la très sainte Trinité et plongés dans la charité de Marie. Nous sommes nés dans le cœur de Marie. C'est elle, c'est par elle, grâce à elle, avec elle, en elle, que nous recevrons la vie de la grâce et tous les développements de la vie de la grâce. Si bien que, lorsque nous faisons une consécration comme celle de Saint-Louis-Marie Montfort, qui a l'air d'effrayer certains, attention, je me consacre à Marie au Sacré-Cœur, les tuiles vont me tomber dessus. À ce régime-là, la première tuile, ce serait votre baptême. Parce que par le baptême, vous êtes dans une relation toute spéciale avec la très sainte Vierge Marie, avec chacune des personnes divines, ce serait très intéressant à développer. Ce n'est pas le cours ce soir, et avec Marie. Avec Marie. Elle sait très bien qu'elle est votre mère. Mais est-ce que vous savez assez que vous êtes son enfant surnaturel, et réellement et surnaturellement son enfant? Et c'est là que se joue la consécration, chers amis, chères retraitantes. C'est là que se joue la consécration. La consécration n'est pas une histoire d'acte juridique avec une préparation qu'on fait pendant un mois, qui est formidable, qui est très bien, en se disant « qu'est-ce que ça va me rajouter comme obligation ? Qu'est-ce qu'on va encore plaquer et quelle couche on va rajouter ?» Non. C'est la reconnaissance d'un fait essentiel, existentiel, on dirait en philosophie, ontologique. C'est de l'être. De l'être surnaturel qu'il faut reconnaître. La Sainte Vierge, elle, elle fait son boulot de faire descendre la grâce avec la Très Sainte Trinité, en union, en coopération avec dans notre âme. Nous, il faut, et donc nous sommes aimés de Marie. Et il faut prendre conscience de ça. Tous les biens qui nous ont été donnés dans l'ordre naturel et surnaturel, depuis que nous sommes vivants et que nous vivons encore, nous sont donnés par la Très Sainte Trinité et par Marie. Elle est médiatrice de toute grâce. Grâce de médiation ascendante ou descendante. Celles qui viennent de Dieu et viennent jusqu'à nous, et celles que elle-même, par les prières que nous faisons, fait monter vers Dieu. Médiatrice de toute grâce. Si bien qu'il n'y a pas un seul bienfait, nos docteurs franciscains vont encore plus loin. Dans l'ordre naturel, il dit, il n'y aurait pas la création sans Marie. Saint Laurent de Brinde. Il n'y aurait pas la création sans Marie. Bon, ça dépend beaucoup de la théologie franciscaine, évidemment, ce que je vous explique là. Après, il y a des petites batailles entre les thomistes et les... Bon, en tout cas, c'est la pensée de Saint Bonaventure, de Saint Laurent de Brinde, plusieurs. Par un même décret, ça c'est tout à fait, Saint Thomas le dit, par un même décret, Dieu a voulu l'incarnation. Il a voulu le Fils de Dieu avec sa sainte humanité, et il a voulu en même temps la Mère. Tout l'univers est fait pour la glorification de Jésus et du Marie. Et Saint Laurent de Brinde disait que ceux qui ne reconnaissent pas Jésus de soi, même si c'est inconscient, ce n'est pas de leur faute, celui qui ne reconnaît pas Jésus comme roi et maître de l'univers, il n'a pas le droit de vivre. Vous entendez ça? Il n'a pas le droit de vivre. Et la même chose pour la Très Sainte Vierge Marie. Elle est vraiment la reine de l'univers dans l'ordre naturel et surnaturel. Toute la création a été voulue pour Jésus et pour Marie, dans l'ordre non seulement surnaturel, mais aussi naturel. Saint Laurent de Brinde, Saint Bonaventure, certains mettront peut-être ça en relation avec aussi le bienheureux, Duns Scott, un maître spirituel, certainement, disons théologien spirituel, qui est, comment a-t-il tombé sur ce mystère de l'Immaculée Conception? Sans doute un cause d'un très grand amour, parce que si on peut se mettre à l'école de ce mystère de l'Immaculée Conception et c'est Jean Duns Scott, on ne peut pas se mettre à l'école de sa philosophie. Certainement pas. En tout cas, en théologie, il est bien tombé. Alors, il y a diverses explications qui sont données par nos maîtres en théologie. Bon, passons. En tout cas, toute la création, et surtout tout l'ordre surnaturel, est voulu pour Marie. Alors ça, le bon Dieu, il le sait. La Sainte Vierge, elle le sait. Jésus le sait. Et nous, est-ce que nous le savons? Notre retour d'amour. Et c'est là que joue la dévotion, la consécration, le don à Marie, la vie mariale. Quand un Saint Jean Bosco nous dit que les trois moyens pour aller au ciel, inspiré par Saint Dominique Savio, qui disait que la chose qui l'a le plus consolé à l'heure de la mort, c'est sa dévotion à Marie. Et Saint Jean Bosco dit trois moyens pour aller au ciel. On est sûr du salut en employant bien ces trois moyens. La prière, la confession, la communion. Et la prière, très spécialement, à Marie. Prière à Marie, confession, communion, piste directe vers le ciel, en supersonique. Tout droit, ça va tout droit, tout seul, comme un bolide. D'où l'intérêt du diable, du démon, soit nous faire supprimer l'un de ces trois moyens, soit le corrompre tant qu'il peut. Attaquer l'esprit de prière, attaquer notre dévotion à Marie, attaquer l'Eucharistie, attaquer la confession. C'est son travail. Quand il ne peut pas supprimer, il corrompt. Alors utilisez bien ces moyens. Prière à Marie, communion. Prenez le temps de communier. Alors, dit, bon, alors les mamans, avec les enfants, est-ce que je peux communier? Ben, Jésus, vous savez bien que j'aime m'occuper de mes enfants qui sont autour de moi. Très bien. Pense que je suis en toi aussi pour m'occuper d'eux. Voilà, par exemple. Ou je dois parler à mes amis au sortir de la messe. Très bien. N'oublie pas que Jésus est encore dans ton cœur. Et fais en sorte qu'il soit sur ta langue et pas trempé dans du vitriol. Et mon rôti, il attend à la maison. Je le sais, mais je suis en toi. Alors, il faut opérer, voir tout ce qui vient, voyez, tout dans notre vie religieuse, chrétienne, comprendre ce qui vient du ciel. Voyez, il faut plus seulement que vous disiez, bon, pendant une retraite, Vous devez voir, vous devez savoir, vous devez comprendre, voir, sentir intérieurement que vous êtes aimé de Dieu. Et votre impuissance à faire ce retour d'amour, impuissance, incapacité à rendre autant que Dieu nous a aimé le premier. On ne pourra jamais aller plus haut que remonter plus haut que cette source. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Lui consacrer toute notre vie, notre corps, notre âme, notre cœur, nos instants, nos prières, notre activité, notre apostolat, tout. Tout doit être à Dieu. De toute façon, au ciel, ah, on est un père dominicain, il expliquait ça. Il dit, au ciel, vous hésitez sur la vie religieuse, monsieur, mademoiselle. Au ciel, c'est la parfaite pratique des trois vœux de religion. Pauvreté, la terre, vous aurez tout laissé par terre. Hein. Chasteté, on est comme des anges. Et obéissance, l'obéissance d'amour, vous verrez Dieu. Ce ne sera pas difficile d'obéir. Alors la logique, évidemment, de notre vie religieuse ou sacerdoce, eh bien, pourquoi pas commencer ici-bas, tout de suite. Bon. Alors, suivant les états. J'ai dit hier, bon. Gardez, chères mesdames, à travers vos maternités ou pas vos maternités, vos épousailles ou pas vos épousailles, l'amour virginal. Cette capacité que vous avez à l'image de la très sainte Vierge Marie, qui est, dont vous avez un pli dans votre nature, qui est l'instinct maternel, cette capacité à vous donner à Dieu, à donner de l'amour autour de vous, à donner de la générosité, ça vous vient de Marie. Quand une femme fait bien ça, elle est une belle image de Marie sur terre. Soyez de belles images de Marie sur terre. Une femme a presque plus de raisons qu'un homme de se consacrer à Marie. Presque plus. Parce que sa nature l'y pousse. Sa nature spécifique. Que ce serait beau s'il y avait sur la terre que des facsimilés de Marie. Ben on en est loin. On a pas mal de facsimilés d'Ève, mais pas beaucoup de Marie. D'Ève dégénérescente, mais pas beaucoup de facsimilés de Marie, pas suffisamment. Et pourtant, tout le salut de la terre est attaché à ça. Quel bel idéal de vie. Être une jumelle de Marie, une facsimilée de Marie. Que c'est beau, que c'est grand, que c'est fécond. C'est plein de fécondité, c'est plein de générosité, c'est plein de force, c'est plein d'élan, c'est plein d'idéal, c'est plein d'esprit concret aussi. Ah, les femmes, vous êtes, c'est vrai, du moral, concret, vous êtes souvent. Je ne parle pas de la question technique, être concret, ce n'est pas seulement être matériel. Ça peut l'être. Un certain sens du concret, oui, que vous avez, qui est différent chez l'homme, et d'intuition, qui est au cœur des choses. Alors, dévotion, dévovere, se vouer, se donner. Il y a le mot vœu dedans, votum. On se voue, on se donne, on se consacre. Mais nous sommes déjà consacrés avant de nous rendre compte de ce que c'est que d'être, que d'appartenir au Dieu. Il faut ensuite le vivre. Nous le sommes. Par le baptême, il y a déjà une consécration. C'est pourquoi même Saint-Louis-Marie et l'école française faisaient Saint-Jean-Eudes renouveler les vœux du baptême, parce que c'est déjà, selon ce bel ouvrage de Don Marmion, consécration à la très sainte Trinité, par le baptême, nous sommes déjà consacrés à la très sainte Trinité. Est-ce que nous avons réfléchi à ça? Ouais, j'ai la Trinité en moi, ouais, bon, ben puis. Je suis, par mon baptême, consacré à la très sainte Trinité. J'appartiens au Père, j'appartiens au Fils, j'appartiens au Saint-Esprit. Je dois faire mon retour. Et j'appartiens à Marie. Je dois opérer ce retour. Un retour vers le Père. Avec Jésus, fils du Père et fils de Marie, et dans le Saint-Esprit. Et grâce à qui? Grâce à Marie, ma mère. Voilà la raison de la consécration, la raison fondamentale. Après, on peut développer un tas de raisons qui sont belles, qui sont grandes, mais ça, c'est une raison tout à fait fondamentale. Alors après, on peut songer à l'agir, aux vertus qu'on a à pratiquer, à l'imitation de Marie. Le père Kolb qui disait le sommet de la dévotion à Marie, c'est la dévotion d'imitation. Reproduire les vertus de Marie. Voilà. L'humilité de Marie. Le tour, la coloration mariale des vertus. Chemin court, aisé, parfait. et éviter les déviations. Alors oui, parlez, il faut que je vous en parle des déviations quand même. Les 7 déviations, les 7 fausses dévotions de la Sainte Vierge. Vous inquiétez pas, vous allez vous reconnaître dans quelques-unes d'entre elles. Peut-être pas toutes quand même, dans les 7. Alors, je les vous les donne, ces déviations, en vous ayant déjà donné le principe. Dévotion d'imitation des vertus, retour d'amour. L'idéal donné à l'âme humaine, pour un garçon c'est plus facile, un jeune homme, un être masculin. Mon idéal, Jésus fils de Marie, un beau livre du Père Neubert. Mon idéal, Jésus fils de Marie. Le Père Neubert, un excellent auteur marial, marianiste. Oui, marianiste, Père Neubert. Magnifiques ouvrages sur la Sainte Vierge. Conseil. Peut encore trouver assez facilement. Je trouve cette sorte de faux dévots et de fausses dévotions à Sainte Vierge. Les dévots critiques. Ouais, ça c'est pour les intellos, souvent les hommes ça, dévots critiques. On va voir, je vous donnerai les détails. Les dévots scrupuleux. Les dévots extérieurs. Alors, critiques, scrupuleux, extérieurs, présomptueux, inconstants. Bon, tout le monde va se reconnaître un petit peu là, parce que l'inconstance... Nous avons des variations, des hautes et basses tensions dans nos dévotions. Les dévots hypocrites et les dévots intéressés. Moi, je prie la Sainte Vierge quand j'ai besoin. Surtout quand j'ai besoin. Alors, je redis, mais je vais les reprendre de toute façon. Critique, scrupuleux, extérieur, présomptueux, inconstant, hypocrite, intéressé. Oh, les critiques, c'est les esprits forts et suffisants qui ont au fond quelques dévotions à Sainte Vierge, mais qui critiquent presque toutes les pratiques de la dévotion à Sainte Vierge. Oh, il ne va pas entendre le chapelet pendant la messe. Il révoque en doute les miracles et les histoires, ils sont un peu rationalistes. Ça, ce serait pour nos théologiens modernistes, peut-être, ça. Les miséricordes et la puissance de la très Sainte Vierge. Il ne saurait voir qu'avec peine des gens simples et humbles à genoux devant un autel ou image de la Sainte Vierge. Facilement, ils vont dire mariolatrie. Ils vont même les accuser même d'idolâtrie. Ouais, ils prient plus la Sainte Vierge que tout le reste. Comme si en priant la Sainte Vierge, ils adoraient le bois ou la pierre. Ils disent que pour eux, ils n'aiment point ces dévotions extérieures et qu'ils n'ont pas l'esprit si faible que d'ajouter foi à tant de contes et historiettes qu'on débite sur la Sainte Vierge. Quand on leur rapporte les louanges admirables des saints pères donnent à la Sainte Vierge, ils répondent qu'ils ont parlé en orateur, par exagération. Et même, ils vont donner une mauvaise explication de leurs paroles. Ces sortes de faux dévots et de gens orgueilleux et mondains sont beaucoup à craindre et ils font un tort infini à la dévotion de la très Sainte Vierge, en éloignant les peuples d'une manière efficace sous prétexte d'en détruire les abus. Ça serait plutôt nos théologiens, je dis, modernistes. Ce serait pas mal de ce côté-là. Ils ne croient rien et critiquent tout. Rien ou presque rien et critiquent tout. Les scrupuleux, ils craignent d'être trop dévots à la Sainte Vierge. Trop. Si je prie tant à la Sainte Vierge, je vais oublier Jésus. Il ne saurait qu'on donne à la Sainte Vierge des louanges très justes que lui ont données les anciens pères. Voici quelques sentences qui leur sont ordinaires. Attention de ne pas des fois prendre ce petit... Bon. À quoi bon tant de chapelets, tant de confréries et de dévotions extérieures à la Sainte Vierge? Il y a en cela bien de l'ignorance. C'est faire une momerie de notre religion. Parlez-moi de ceux qui sont dévots à Jésus-Christ. Il faut recourir à Jésus-Christ, notre unique médiateur. Il faut prêcher Jésus-Christ, voilà le solide. Ah, c'est bien, mais on ne prie pas Jésus-Christ sans sa mère. Ça serait un langage assez protestant. Ce qu'ils disent est vrai en un sens, mais par rapport à l'application qu'ils en font, pour empêcher ou ralentir la dévotion à la très Sainte Vierge, il est très dangereux et un fin piège du malin, sous prétexte d'un plus grand bien. Car jamais on n'honore plus Jésus-Christ que lorsque l'on honore plus la très Sainte Vierge. Puisqu'on ne l'honore qu'afin d'honorer plus parfaitement Jésus-Christ. La Sainte Église, avec le Saint-Esprit, bénit la Sainte Vierge la première et Jésus-Christ le second. Comment elle fait ? Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jésus. Elle a dû se tromper. elle aurait dû commencer par Jésus. Non, non pas parce que la Sainte Vierge soit plus que Jésus-Christ, ce serait une hérésie intolérable, mais c'est que pour bénir plus parfaitement Jésus, il faut auparavant bénir Marie. Les dévots extérieurs, troisième catégorie. Là, on va plus se reconnaître, vous allez voir. Extérieur, un peu présomptueux, oui. Inconstant, oui, c'est inconstant. Hypocrite, on verra. Hypocrite sur tous les autres. Et puis, les dévots intéressés. Alors, les extérieurs. Ah ben, alors, des kilomètres de rosaire. Pour les 12 millions. Non, non, bon. Non, pour les 12 millions, vous pouvez y aller. Non, non. Bon. Des pratiques, ils ne goûtent que l'extérieur de la dévotion. Ils n'ont pas l'esprit intérieur. Ils vont dire force chapelet, mais à la hâte, à la mitraillette. Ils vont entendre plusieurs messes sans attention. Ils vont aller aux processions sans dévotion. Ils sont de toutes les confréries, mais, ils ne font aucune violence à leur passion. Ils n'imitent pas les vertus de la Très Sainte Vierge. Ils n'aiment que le sensible de la dévotion. Ils ne vont pas au solide, au substantiel de la dévotion. Ils n'ont de sensibilité que pour leur pratique. Si on veut leur faire quitter ces pratiques, ils croient qu'ils ne font plus rien. Ils quittent tout. Ils font tout à bâton rompu. Le monde est plein de ces sortes de dévots extérieurs et il n'y a pas de gens plus critiques des personnes de raison qui s'appliquent à l'intérieur comme à l'essentiel, sans mépriser pourtant l'extérieur de modestie. Donc il faut, mais pour toute forme de dévotion, bon, il faut d'abord l'esprit de cette dévotion intérieure, et puis un certain nombre de pratiques. Saint Jean Berchmans disait, pour plaire à la Sainte Vierge, il ne s'agit pas d'avoir des multiples pratiques, mais de celles qu'on a choisies s'y tenir tout le temps, tous les jours. Par exemple, ne serait-ce que bon, bien dire son chapelet, ou on a promis un souvenez-vous à la Sainte Vierge tous les jours, ce qu'avait fait le Père Kolb, et toute sa vie, et la Sainte Vierge de l'Enfant Jésus aussi. Toute sa vie, ils ont dit, ils ont promis, ils ont tenu ça. C'est une toute petite chose. La Sainte Vierge y attache beaucoup d'importance à ces petites choses, mais constamment. Peu, mais bien. Peu, mais toujours. Peu, mais bien. Peu, mais toujours. Ça s'applique à toute la vie chrétienne. Peu, mais bien. Peu, mais toujours. Alors, suivant, ça peut dépendre des uns des autres aussi, bien sûr. Attention, pas s'arrêter à l'extérieur, à la sensibilité, même à la dévotion sensible. Les présomptueux. Alors, c'est ceux qui auraient une très bonne dévotion, si vous voulez, extérieure. Mais ils ont un gros vice et ils ne font vraiment aucun effort pour s'en débarrasser. Alors ils sont, admettons, orgueilleux, avares, impurs, ivrognes, colériques, tout ce que vous voulez, mais très forts. Dans l'état de péché mortel, par exemple. Mais ils se disent, bon, moi je fais quelque chose pour ainsi dire, tout ira bien. C'est vrai qu'on raconte beaucoup de belles histoires dans Saint-Alphonse. Des gens qui ont été sauvés par l'Ave Maria qu'ils avaient promis à leur maman. Alors qu'ils avaient une vie de patachon à côté. Il ne s'agit pas de mettre un miel de bonne dévotion et de garder tous ses péchés mortels, sans se faire beaucoup de violence pour se corriger. Sous prétexte qu'ils sont dévoués à la Vierge, ils se promettent, c'est une présomption, que Dieu leur pardonnera, qu'ils ne seront pas damnés. Puisque, bon, attention, là c'est à double tranchant. Bien sûr que même si on a, il faut toujours garder une dévotion à la Sainte Vierge. Pas cette espèce de, comment on peut appeler ça, de raffinement à dévotion. Bon, je suis en état de péché mortel, donc je ne fais plus rien, quoi. Non. On garde ce qui est. Le curé d'Ars disait, alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens? Il ne faut pas leur faire quitter la pratique sainte, mais il faut faire que, à partir de... leur faire comprendre la logique et la cohérence de ces pratiques qu'ils ont, que ça doit les amener jusqu'à la conversion. Il ne s'agit pas de tout arracher à la fois. Hein. Jeter le bébé avec l'eau, comme on dit. Bon, l'eau avec le bébé, pardon. Donc, pas de présomption pour ça. Mais bien sûr, si on a une dévotion, même dans les pires états, gardons notre... On voit bien ça dans des vies que la Sainte Vierge... C'est parfois le démon a attendu que le pécheur ou le saint, le futur saint, quitte sa dernière pratique à la Sainte Vierge pour l'attaquer. Donc, c'est signe de prédestination. D'être resté attaché à la Sainte Vierge jusqu'au bout, à fond. Un cheveu peut suffire. Vous savez bien, là... Toujours cette histoire de curé d'Ars qu'on raconte. Là, celui, il mettait simplement, il offrait des fleurs chaque mois au pied de la statue. Et bon, il s'est suicidé. Et entre le pont et l'eau, il a trouvé le temps de faire un acte de contrition. Pourquoi ? Parce que Il avait fait un certain nombre d'actes, Saint-Vierge, j'en ai souvenu. Un bon cœur de mère. Rien ne serait si damnable que dans le christianisme qu'une présomption diabolique. De croire parce qu'on fait, de rester tranquille avec son péché, c'est ça qu'on veut dire, hein, son péché grave. Si on ne fait vraiment aucun effort pour s'en tirer. Il ne faut pas, bien sûr, abuser de la dévotion à Saint-Vierge. Bon, ça, ce n'est pas ce qui nous, en principe, nous atteint le plus, je pense, dans nous. Par contre, les dévots inconstants, être dévoué à la Sainte-Vierge par intervalle et par boutade. Tantôt fervent et tiède, tantôt tiède, tantôt prêt à tout faire pour son service, et puis peu après, plus les mêmes. Ils embrasseront d'abord toutes les dévotions de la Sainte-Vierge, se mettront des confréries, prendront toutes les règles et pratiques de fidélité, mais ils changent comme la lune. Ils sont changeants, trop changeants. Bon, alors attention, comme dit M. Bonabbé Castelin, bon, mère du perpétuel secours, mère du perpétuel recours et mère du perpétuel retour. Alors si vous êtes des inconstants, ça peut arriver, ouais, on peut avoir ça, et longtemps, ouais, je m'éloigne constamment, je reviens constamment. Voilà. Chaque fois que je sens que je suis éloigné de mon Dieu, de Marie, je reviens. Et je reviens avec d'autant plus de conviction, de confiance, de force, d'amour, de générosité, que je suis resté longtemps ou intensément loin du bon Dieu. J'aime beaucoup cette remarque que m'avait fait un prêtre. Quand on garde la confiance en Dieu, confiance en Marie, Dieu comptera beaucoup plus vos retours que vos chutes. Comptera beaucoup plus les fois où vous avez essayé d'être debout que les fois où vous êtes tombé, boum, badaboum, par terre. À cause de votre confiance. Confiance. Et confiance en Marie, très spécialement. Les hypocrites. Ils couvrent leurs péchés, leurs mauvaises habitudes sous le manteau de cette Vierge fidèle afin de passer aux yeux des hommes pour ceux qui ne sont pas. Bon, ça reste relativement rare, je pense, ce genre de... mais ça arrive, ça peut arriver. Les dévots intéressés, parce que ceux qu'on trouve le plus, enfin, il me semble, tu as demandé des confrères, mais c'est l'inconstance et le être trop intéressé. Voilà. Les dévots intéressés, ils ne recourent à la Sainte Vierge que pour gagner quelques procès, éviter quelques périls, guérir d'une maladie ou par quelque autre besoin de cette sorte, sans quoi ils l'oublieraient. Voilà. Dit le père Eugène, nous disait, notre père fondateur, là, il y en a, le bon Dieu comme la Sainte Vierge. À l'époque où il vivait, c'était comme ça, semblait-il. On avait un poêle à chauffer. Quand on avait besoin, on le descendait en hiver et puis on le remontait pendant l'été. Il y en a qui considèrent le bon Dieu comme ça. Quand il fait froid dans la maison de leur âme, alors on fait descendre le poêle à chauffer. Puis quand il n'y a plus besoin, on remet au grenier. Ben non. C'est toujours et tout le temps que le bon Dieu est aimable. C'est toujours et tout le temps qu'il faut servir à servir Marie. Alors il résume ceci. Après, nous prenons les vraies marques. Hein, pour, c'est parce que ça va être notre idéal. Je montre d'abord ce qu'il ne faut pas, ce qui n'est pas bien. Mais on ne va pas se laisser hypnotiser par ça. On va regarder ce qu'il faut faire. Alors, il résume. Les critiques croient rien et critiquent tout. Les scrupuleux craignent d'être trop dévoués à la Sainte Vierge. Les extérieurs, tout dans les pratiques extérieures. Les présomptueux, sous prétexte de dévotion, croupissent dans leurs péchés. Les inconstants changent constamment de pratique ou les quittent tout à fait à la moindre tentation. Les hypocrites prennent l'apparence dans les confréries et portent les livrées de la Sainte Vierge afin de passer pour bon. Et enfin, les intéressés n'ont recours à la Sainte Vierge que pour être délivrés des maux du corps ou obtenir des biens temporels. Alors, les marques de la véritable dévotion de la Sainte Vierge, voilà ce qui va nous intéresser. Vraie dévotion. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Elle est intérieure. Intérieure. Vraie vie intérieure, l'esprit intérieur, l'esprit de cette dévotion. Le don du cœur et de l'esprit, l'intérieur. Elle est tendre, affectueuse, pleine de confiance. Ma bonne mère, ma chère mère. Voilà. Troisièmement, elle est sainte. Une sainte dévotion, sanctifiante, une dévotion sanctifiante, lénifiante. Surnaturellement lénifiante. Constante. La constance morale, comme la constance de la prière. La constance, c'est pas... C'est... le continu au sens moral, le constant au sens moral et spirituel, c'est l'état habituel et de plus en plus actualisé de notre volonté, de notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, comme disait le père Kolb, il y en a, bon, il tombe, c'est moins grave, le père Kolb avait l'air de dire, c'est moins grave de tomber par accident, faiblesse, dans un péché grave qu'on saisit comme le feu et on lâche tout de suite, que de s'endormir et de croupir dans une tiédeur volontaire, pactisé avec une tiédeur, une médiocrité volontaire, pas celle dont on gémit, les saints en ont gémi, mais volontaire, pactisé avec un ou plusieurs une série ou un péché véniel délibéré foncièrement, bon, sur lequel on fait aucun effort, plus grave, parce que ça endort l'âme et ça prépare des chutes abyssales dans le péché grave. Constante, désintéressée. Désintéressé. Apparemment, il n'y a que ces cinq marques-là, je me souviens, d'après le livre. C'est le traité de la vraie dévotion, ceux qui aiment les passages et les références. Alors, dans cette édition du Seuil, là, très bien, c'est ce qu'on trouve facilement, même en librairie profane. Le Seuil, avec leur maître spirituel où il y a à boire et à manger. Alors, en quoi consiste, c'est dans le deuxième chapitre, en quoi consiste la dévotion à Marie? Et donc, dans les marques de la véritable dévotion, l'introduction, c'est les faux dévots, et puis ensuite, les marques de la véritable dévotion. Donc, dans l'édition du Seuil, page 80, numéro 100. Oh, c'est mieux de vous donner le numéro, parce que ça, c'est toutes les éditions. C'est le numéro 105. De l'édition numérotée, numéro 105. Alors voyons un peu chacun de ces caractères, doucement, intérieur. Donc essentiellement, un don du cœur et de l'esprit. Basé sur ce que je vous ai expliqué, les grandeurs de Marie. Maternité divine, immaculée conception, médiation de toute grâce, privilège de Marie. Elle vient de l'estime qu'on fait de la Sainte Vierge, la haute idée qu'on s'est formée de ses grandeurs et de l'amour qu'on lui porte. La grandeur de Marie, s'en entretenir. Alors elle est tendre, elle est affectueuse. Alors tendresse et affection, attention, vous voyez, si on était tendre et affectueux sans vraie dévotion intérieure, on risque d'aller dans le sentimentalisme. Servir la Sainte Vierge que dans la consolation sensible. Non, aussi la servir dans les moments où, bon, ça rame, où elle semble un peu loin. Elle n'est jamais loin, mais elle peut sembler un peu loin. Affectueuse, pleine de confiance, un enfant vers sa bonne mère. Elle fait qu'une âme recourt à elle en tous ses besoins de corps et d'esprit, avec beaucoup de simplicité, de confiance, d'affection, de tendresse. Elle implore l'aide de sa bonne mère en tout temps, tout lieu, toute chose. Dans ses doutes, pour être éclaircie, dans ses égarements, pour être redressée, dans ses tentations, pour être soutenue, dans ses faiblesses, pour être fortifiée. Vous reconnaissez là, peut-être, la belle prière de Saint-Bernard, là. Regarde l'étoile et invoque Marie. Vous avez ça dans Manuel Bleu, celle qu'on est, Manuel Bleu, l'exercice Saint-Ignace. Les nouvelles éditions, là, depuis 5-6 ans, là, regarde l'étoile, invoque Marie, dans tes doutes, etc. Et surtout, si tu veux être exaucé d'elle, imite sa vie et ses exemples. Dans ses égarements pour être redressé, dans ses tentations pour être soutenu, dans ses faiblesses pour être fortifié, dans ses chutes pour être relevé, dans ses découragements pour être encouragé, dans ses scrupules pour en être ôté, dans ses croix, travaux et traverses de la vie pour être consolé. De la consolation du Saint-Esprit, qui n'est pas toujours une consolation sensible, mais qui est une force qui est donnée dans notre volonté pour que nous portions ce que Dieu nous demande. Enfin, en tous ces maux de corps et d'esprit, Marie est son recours ordinaire, sans crainte d'importuner cette bonne mère et de déplaire à Jésus-Christ. Nous avons un de nos saints que nous fêtons le 24 avril, Saint Fidèle Sigmaringen. Sa méthode principale d'oraison, c'était la suivante. Il commençait toujours ses oraisons comme ça. Donc il faisait un acte de présence à la Très-Sainte Vierge, et il commençait par dire toutes les perfections de la Sainte Vierge, tout ce qu'il pouvait avoir dans son esprit et son cœur, perfection de la Sainte Vierge. Puis après, il faisait tout l'exposé de ses misères, et il en avait, même si c'était un grand saint. Et après, il disait, vous êtes si riche, je suis si pauvre, il faut que vous remplissiez mon âme. Et après, il faisait son oraison. Excellent! On peut le faire avec Dieu, bien sûr, directement. Encore mieux, vis-à-vis de Marie. Cette loi des contrastes qui touche notre cœur, dans les choses reliées, dans la vie religieuse, la vie chrétienne, ce qui touche un cœur, c'est les contrastes, dans notre religion chrétienne, c'est la beauté des contrastes. Ça touche beaucoup les convertis, ça. Dans le christianisme, il y a des choses tout à fait opposées et elles sont comme unies par le haut. On trouve beaucoup d'humilité, de passesse, de simplicité et une grande magnanimité. Et les deux s'unissent par le haut. Que disait tout à l'heure Monseigneur Lefebvre là ? Il sent bien dans le christianisme, charité appelle humilité. Et c'est pensé maintenant. Saint François de Sales nous dit que toutes les vertus viennent se placer comme des cordes sur une harpe, ou je ne sais pas quel instrument il a donné, je ne me souviens plus bien, mais il dit entre charité et humilité. Toutes les vertus viennent se passer entre ces deux-là. Le clavier des vertus, c'est charité, humilité, et toutes viennent entre ces deux-là. On comprend que ce soit le fondement de notre vie spirituelle. En tout cas, c'est très bien, Saint Fidèle, Saint Marienne, voyez, loi des contrastes, c'est la beauté, la grandeur, et ça touche l'âme. Voyez, touche l'âme, les contrastes touchent l'âme, touchent l'intelligence aussi. Parfois, la désarçonne un peu, la déstabilise. Mais c'est comme ça, et pas dans l'esprit de foi, le don du Saint-Esprit, pas dit. La vraie dévotion est sainte. Elle porte une âme à éviter le péché, et à imiter les vertus de la très sainte Vierge. Dévotion d'imitation. C'est le miel de la dévotion à la sainte Vierge. Vous savez où vous en êtes, est-ce que vous progressez dans les vertus ? À l'école de Marie, évidemment. Voilà, bon examen de conscience. Elle est humble, et moi, où j'en suis ? Elle obéit, et moi, où j'en suis ? Elle prie, et moi, comment je prie ? Elle se mortifie universellement, et moi ? Elle est pure. Dans son corps, dans son cœur, dans son esprit. Sa charité, sa patience. C'est beau ces petits opuscules à tirer des gloires de Marie, les vertus de Marie. Très bien, Saint Alphonse de Ligonnès. C'est un des plus beaux livres, ça, les gloires de Marie. Hein. Pas de lecture jusqu'au 15 août, vous pouvez aller. C'est la somme des gloires, des beautés de Marie. Il dit que c'est les 10 principales vertus de la très sainte Vierge. Humilité, foi, obéissance, oraison, mortification, pureté, charité, patience, douceur angélique et sagesse divine. Il termine par sagesse divine. Alors, la constance et le désintéressement. Quelle heure vous avez ? Ça sonne bientôt. Ah bah c'est ça, je marche bien. Ça sonne à 20. Peut-être qu'il y a un horaire spécial. Il n'y a pas d'horaire spécial, non ? Ah, c'est pour quoi ? Oui. Ah, très bien. Oui, puis c'est pour qu'on aille à la chapelle. Alors, je finirai par constant et désintéressé, puis après on va aller prier. En face du micro. Alors, constante. Elle affermit une âme dans le bien. Elle la porte à ne pas quitter facilement ses pratiques de dévotion. Il enrage le démon quand vous dites votre chapelet. Il a horreur de ça. Elle la rend courageuse à s'opposer au monde dans ses modes et ses maximes. La Sainte Vierge n'est pas une mondaine. Si vous ne savez pas comment vous habiller, ou au lieu de regarder votre miroir, vous regardez la Sainte Vierge. Ça vous convient, Sainte Vierge, ça ? Est-ce que vous vous habilleriez comme ça si vous étiez mère, épouse ? Je préfère ne pas y penser, mon père ! Dans ses modes et maximes, opposition à la chair dans ses ennuis et dans ses passions, et surtout opposition au diable dans ses tentations. En sorte qu'une personne vraiment dévote. Oh là là! Ah, c'est trône! J'ai amené un tabouret, approche-toi. Alors, une vraie personne dévote n'est point changeante, ni chagrine, ni scrupuleuse, ni craintive. Ah, s'il y a cette chose dans l'âme. Il peut y avoir ça par tempérament, par dire. La Sainte Vierge, elle enlève le chagrin, le scrupule et la crainte troublante. Ce n'est pas qu'elle ne tombe et qu'elle ne change quelquefois dans sa sensibilité à des hauts. On peut avoir des hauts, des bas dans la sensibilité. Mais si elle tombe, elle se relève en tendant la main à sa bonne mère. Si elle devient sans goût ni dévotion sensible, elle ne s'en met pas tant en peine. Parce que le juste et le dévot fidèle de Marie vit surtout de la foi en sa divine mère, de sa foi en Jésus et en Marie, et non pas des sentiments et sensations du corps. Et enfin, le plus important, que l'on voit bien dans les grands serviteurs de Marie, Saint Louis-Marie, le Père Kolb, désintéressés. Ils veulent pouvoir tout sacrifier à la Sainte Vierge. Voilà. Et nous aurons certainement, pas seulement Père Kolb, on voit les martyrs de Christeros, les martyrs de la guerre d'Espagne. On peut dire qu'il y a eu des martyrs de Marie. Des martyrs. Une grâce toute spéciale de la Sainte Vierge Marie dans le martyr. Elle inspire à une âme de ne point se rechercher, mais Dieu seul en sa Sainte Mère. Un vrai dévot de Marie ne sert pas cette auguste reine par un esprit de lucre et d'intérêt, ni d'abord pour son bien spirituel, ni même éternel, ni corporel, ni spirituel, mais uniquement parce qu'elle mérite d'être servie. Elle est aimable en elle-même, et Dieu seul en elle. Il n'aime pas Marie précisément parce qu'elle lui fait du bien, ce qui est déjà une chose, ou qu'il en espère d'elle, mais parce qu'elle est, elle, en elle-même, aimable. C'est pourquoi il l'aime et il la sert aussi fidèlement dans les dégoûts et les sécheresses que dans les douceurs et les ferveurs sensibles. Il l'aime autant sur le calvaire qu'aux noces de Cana. Aucun tel dévot de la Sainte Vierge qui ne se recherche en rien dans les services qu'il lui rend est agréable et précieux aux yeux de Dieu et de sa Sainte Mère. Mais qu'il est rare maintenant, et il faut le demander bien sûr, de le devenir. C'est afin qu'il ne soit plus si rare que j'ai mis la plume à la main pour écrire sur le papier ce que j'ai enseigné avec fruit, en public, dans mes missions pendant bien des années. À ce sujet-là, pour conclure juste avant la prière, en nos derniers temps, certes, il faut une très grande dévotion à Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Vous avez eu un sermon ce matin dessus. Mais il convient d'avoir dans ce rosaire une très spéciale dévotion à la Vierge des Douleurs, Notre-Dame des Sept Douleurs, ou la Vierge des Douleurs, ou Notre-Dame de Compassion. Jésus a dit à Sainte Brigitte, ou Saint Jean l'Évangéliste, que il était plus agréable à notre Seigneur Jésus-Christ que nous méditions les larmes de sa mère que sa propre passion. Ça lui est plus agréable. Et ça obtient plus de grâce aux âmes. Toute proportion égale. Bon, puisqu'à Sainte Vierge, la méditation de la compassion de Marie nous mène à la méditation de la passion de Jésus. C'est fort. C'est le Père Faber qui explique ça dans Notre-Dame au pied de la croix. Hein, Notre-Dame au pied de la croix, Notre-Dame de cette douleur. La Vierge, au pied de la croix, je crois que ça s'appelle l'ouvrage du Père Faber, qu'on trouve assez facilement aussi. Vous pourriez lire, c'est les sept douleurs de la Sainte Vierge, avec les développements, toujours très beaux, il écrit très bien le Père Faber, c'est très riche, très beau. Donc, ayons dévotion, la Vierge, au cœur douloureux de Marie. Et précisément, cette dévotion au cœur douloureux nous rendra constants dans nos épreuves, dans les sécheresses, dans quand la croix se fait sentir. La compassion de Marie, il y a une force dans cette compassion de Marie. Une force dans ce cœur de la Mère de Dieu. Et vous êtes à même de le comprendre, chère dame, voilà, chère demoiselle, dame, la compassion. Vous l'avez déjà dans votre nature, dans vos fonctions, dans votre vocation, dans votre sanctification. Et bien, si vous voulez qu'elle soit prolongée et qu'elle porte des fruits de vie éternelle, ayez grande, profonde dévotion à Notre-Dame de compassion. Vous allez comprendre à quel point la Sainte Vierge est capable de se mettre à votre place. Quelle consolation dans les épreuves. Savoir que quelqu'un, un cœur ami, se met à notre place. Faites cela, vous en serez bien contente, bien heureuse, pleine de joie à l'école de la cause de notre choix.